Pensez-vous être trop difficile à sauver? Est-ce que vous pensez être trop difficile à sauver? Peut-être qu'au moment où vous m'écoutez, cet après-midi, ou peut-être quelqu'un qui écoutera sur Internet plus tard, peut-être que vous n'êtes pas croyant. C'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais vraiment positionné par rapport à Dieu, ni par rapport au message de l'Évangile. Et la raison pour laquelle vous ne vous êtes jamais positionné par rapport à ces choses, c'est que vous vous dites à l'intérieur, peu importe si c'est vrai, peu importe si Dieu existe, peu importe si le message de l'Évangile est vrai, de toute façon, je ne suis pas fait pour ça. Je n'arriverai jamais à croire. Je suis trop cartésien, trop matérialiste, trop sceptique, trop têtu, bref, trop non-croyant. Je suis trop non-croyant pour que Dieu, s'il existe, puisse faire quelque chose pour moi. Vous êtes trop difficile à sauver. Vous voyez ? Peut-être que vous m'écoutez en ce moment et en fait vous êtes croyant. Vous êtes un croyant mais votre marche chrétienne vous désespère. Et cette semaine encore, vous avez fait des choses, dit des choses, ou pensé des choses qui contredisent la volonté de Dieu. Vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout eu envie de lire la Bible et de prier cette semaine. Vous vous êtes senti loin de Dieu, coupable et dépité. Vous avez mis votre masque de chrétien pour venir à l'église aujourd'hui, bien sûr, mais à l'intérieur, vous avez l'impression d'être un hypocrite. Comment Dieu pourrait-il aimer quelqu'un comme vous? Peut-être que vous êtes un cas désespéré, peut-être que votre incrédulité, ou peut-être que les désirs de votre chair ont gagné la partie face à Dieu. Bref, peut-être que vous êtes trop difficile à sauver. Eh bien, quel que soit votre cas cet après-midi, j'espère que vous allez prêter une attention toute particulière au texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier ensemble, parce qu'il y a dans ce texte, pour vous, une extraordinaire bonne nouvelle. C'est la suite donc du récit, je le disais, c'est la suite du récit qu'on a commencé à étudier la semaine dernière, et on a vu la semaine dernière la naissance du peuple de Dieu. En l'occurrence, c'est le peuple d'Israël qui, conformément au plan de Dieu, s'est retrouvé en Égypte, soumis à une terrible servitude et à une opposition violente et même génocidaire de la part des autorités du pays d'Égypte. Vous vous souvenez? Et c'est dans ce contexte de servitude et d'oppression, c'est dans ce contexte que Moïse va introduire, qu'est-ce qu'il va introduire? Chapitre 2, il va introduire son propre personnage. Il va s'introduire lui-même dans l'histoire. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte qu'on va lire dans quelques instants. Mais avant de le lire, rappelons-nous quand même quelque chose. C'est qu'au moment de lire ce texte, nous savons bien, comme le savaient bien les premiers destinataires de ce récit, nous savons fort bien que ce bonhomme qui s'appelle Moïse, qui apparaît dans le récit, c'est le libérateur qui finira, au bout de quelques chapitres, par délivrer le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. Ça, on le sait très bien. Moïse va donc nous raconter sa propre apparition dans l'histoire de telle sorte à faire comprendre au peuple le genre de héros dont il avait besoin dans la situation où il se trouvait. Et le genre de héros que Dieu a bel et bien envoyé dans l'histoire du peuple. Et du coup, nous allons découvrir cet après-midi, mes amis, le genre de héros qu'il nous faut pour que nous soyons sauvés. Et la leçon de ce texte est simple, c'est que nous avons besoin d'un libérateur dont la foi et la fidélité suppléent à notre incrédulité. Ou pour le dire plus simplement, nous avons besoin d'un sauveur qui nous sauve malgré nous. Nous avons besoin d'un sauveur qui nous sauve malgré nous. Et comme on va le voir, Dieu a envoyé ce libérateur, non pas en la personne de Moïse, mais dans l'histoire, il l'a envoyé en la personne de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, si vous pensez être trop difficile à sauver, je veux que vous preniez la mesure des moyens que Dieu a mis en œuvre pour le salut des hommes. D'accord? Et on va faire ça à travers ce texte. Lisons-le, il s'agit d'Exode chapitre 2, et on va lire les versets 1 à 22. Et en fait, juste pour rappeler le contexte, je vais lire également le verset qui précède, le dernier verset du chapitre 1. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de joncs qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un des enfants des Hébreux !» Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?»« Va !» lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards vers leurs pénibles travaux. Et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Sûrement, l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme, qui donna sa fille, Séphora, à Moïse. Et elle accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Gershom, car, dit-il, je suis un immigrant dans un pays étranger. On s'arrête ici pour la lecture de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Ta parole, Seigneur, la Bible comporte des récits passionnants. Parfois, il nous est difficile de voir ce qu'ils ont à nous enseigner pour nous aujourd'hui, comment ils s'appliquent à notre vie aujourd'hui. Seigneur, aide-nous donc maintenant et permets que la méditation de ta parole porte du fruit dans la vie de chacun cet après-midi. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. En gros, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez cet après-midi, c'est la suivante. C'est que nous avons besoin d'un sauveur qui nous sauve malgré nous, et ce sauveur est venu en la personne de Jésus. D'accord ? Nous avons besoin d'un sauveur qui nous sauve malgré nous, et ce sauveur est venu en la personne de Jésus. Donc tout ce que je vais dire dans les 20 minutes qui suivent, à la limite vous pouvez l'oublier si ça ne vous intéresse pas, mais surtout retenez l'idée principale. Nous avons besoin d'un sauveur qui nous sauve malgré nous, et ce sauveur est venu en la personne de Jésus. En tout cas, en ce qui concerne ce texte, la première chose que Moïse veut nous faire comprendre, veut faire comprendre au peuple en tout cas, c'est que Dieu, dans son histoire, dans l'histoire du peuple, a envoyé un héros et que ce héros, ce n'était pas n'importe qui. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Moïse parle de lui-même, hein, parle de son apparition dans l'histoire du peuple d'Israël. Et Moïse va raconter en détail toutes les circonstances incroyables, vraiment incroyables, de sa propre naissance. Alors, si vous lisez de temps à autre des biographies d'hommes célèbres, vous savez que souvent, les biographes nous racontent l'enfance d'un personnage, l'enfance hors du commun d'un personnage connu, pour souligner le fait que la vie tout entière de ce personnage est hors du commun. Imaginez par exemple que je vous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui qui a été élevé à la cour d'un prince, d'accord ? Un grand prince. Lorsqu'il est né, ce jeune garçon, il était le 7e enfant de ses parents, mais il était seulement le 2e à survivre. Et ses parents, du coup, lui ont donné un nom qui signifiait « aimé de Dieu ». Dès l'âge de 3 ans, ce jeune garçon se révèle extraordinairement doué en musique. Et il a une faculté de mémoire surdéveloppée. À 6 ans, ce jeune garçon joue du clavecin, il joue du violon, il joue de l'orgue et il compose. À 12 ans, ce jeune garçon a déjà écrit 3 opéras et il a joué sa musique dans toute l'Europe, dans les lieux de concert les plus prestigieux. Bon, voilà une enfance hors du commun, non ? Mais quelle est la question qui vous brûle les lèvres à ce moment précis de l'histoire, sinon la suivante ? Et alors ? C'était qui ce prodige ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Et il s'agit bien sûr, pour ne pas faire durer le suspense, du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. Une enfance hors du commun, pour souligner le fait que toute la vie de cette personne était hors du commun. Mais Moïse fait la même chose ici dans le texte. Il nous raconte les circonstances incroyables de sa naissance et de son enfance. Pourquoi ? Pour que nous comprenions, à notre tour, que nous n'avons pas affaire ici à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui qu'il est en train d'introduire dans son histoire, d'accord ? C'est pas n'importe quel hébreu parmi les hébreux, c'est pas un citoyen lambda, comme on dit aujourd'hui, c'est quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'hors du commun. Et si Moïse fait ça, bien sûr, ce n'est pas pour se mettre en valeur lui-même, pour se dire, bon, il a un peu du toupet, celui-là, de se présenter comme ça. Non, c'est pas pour se mettre en valeur lui-même, mais plutôt pour mettre en valeur la providence de Dieu qui entoure complètement les circonstances de l'apparition de ce héros dans l'histoire du peuple. Il y a tellement de circonstances extraordinaires dans ce récit que c'est comme si à chaque verset, Moïse disait « Attends, tu vas pas le croire, attends d'entendre la suite, tu vas voir, tu vas pas le croire ce qui se passe après. » Voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est né à une époque où le roi avait ordonné que tous les jeunes garçons soient mis à mort. Mais tu sais quoi ? Attends, tu sais pas ce qui se passe ? Ses parents le cachent pendant 3 mois au péril de leur vie. Non, sérieux ? Ouais, mais attends, c'est pas fini. Parce qu'au bout de 3 mois, ils ne pouvaient même pas le cacher. Alors, ils ont construit pour lui une espèce de petite barque, une petite arche de Noé, si tu veux. Ils l'ont caché dedans. Tu sais où ils l'ont mis ? Non, je sais pas. Ah bah, attends, tu vas pas le croire. Ils l'ont mis dans les roseaux, sur le bord du Nil, là où il y a tous les alligators. Non. Si, mais attends, c'est pas fini. Tu sais quoi ? La fille, une des filles du roi, une princesse, est allée se baigner. Et là, tu sais, elle découvre la petite barque avec le bébé dedans. Non, c'est vrai, oh, c'est horrible. Mais non, mais attends, tu sais pas quoi ? Elle a pitié de l'enfant en le voyant. Et elle le prend, elle veut le garder, elle veut l'adopter. Vraiment, la fille du roi qui voulait mettre à mort tous les petits bébés garçons. Oui, c'est ça. Mais attends, c'est pas fini. Il y avait la sœur du bébé qui, à ce moment-là, était en train de regarder et d'observer ce qui se passait. Elle se montre et elle propose quelque chose à la princesse. Elle dit, est-ce que tu veux que j'aille chercher une nourrice pour ce bébé ? La princesse a dit, oui, tu sais quoi ? Mais attends, c'est pas fini. Tu sais qui elle va chercher, la sœur du bébé ? Elle va chercher la propre mère du bébé, incroyable, non ? Mais c'est pas terminé. La princesse va proposer à la mère du bébé, sans savoir que c'est vraiment sa mère, elle va lui proposer de la payer pour élever un enfant qui normalement aurait dû mourir selon l'ordre du roi. Non, c'est pas possible. Vous voyez ? La providence de Dieu qui entoure toutes les circonstances de la naissance de Moïse. Et quand on arrive au verset 10, il y a à ce moment-là une question qui nous brûle les lèvres, à nous aussi. Et alors ? Mais qui était-il, ce bébé ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Et c'est à ce moment précis, au verset 10, que Moïse va mentionner son nom pour la première fois dans le récit, en ajoutant qu'il a été pris pour fils, donc adopté par la fille du Pharaon. Ce qui implique par conséquent qu'il a reçu une éducation princière à la cour du roi. Et à la cour du Pharaon, il a acquis une grande sagesse et il est devenu, pour reprendre une expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament au sujet de Moïse, il est devenu puissant en parole et en œuvre à la cour du Pharaon. Vous voyez donc que Moïse veut faire comprendre au peuple qu'un héros est apparu dans son histoire, dans l'histoire du peuple. Ce n'était pas un héros autoproclamé, d'accord ? Mais c'était quelqu'un qui, dès le départ, manifestement, avait été choisi par Dieu, comme le révèlent les circonstances absolument providentielles de sa naissance et de son enfance. Donc ce que le peuple est censé comprendre à ce moment-là de son histoire, à ce moment-là du récit, c'est qu'il avait besoin, le peuple avait besoin que Dieu lui suscite un tel héros. Le peuple était en proie à une servitude et une oppression telle, comme on les a vus dans le premier chapitre, telle qu'il lui fallait un libérateur choisi par Dieu, envoyé par Dieu, préparé par Dieu, équipé par Dieu, adapté par Dieu pour la mission qui lui était destinée et qui a consisté à délivrer le peuple. Le peuple ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Le peuple ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il lui fallait un libérateur. Voilà le point, le premier point que Moïse veut faire comprendre au peuple à travers cet épisode. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est ponctuée d'épisodes où Dieu envoie un héros qui intervient en faveur du peuple. On peut penser à d'autres exemples notoires, comme le prophète Élie, ou comme le roi David, par exemple, des héros que Dieu a suscités tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Et tous ces épisodes, comme d'ailleurs celui qui nous intéresse aujourd'hui au sujet de Moïse, tous ces épisodes servent d'une part à communiquer au peuple le besoin qu'il a en général d'avoir un héros qui vienne à son secours. Mais d'autre part, ces épisodes servent également à préparer le peuple à reconnaître et à recevoir le héros ultime que Dieu avait promis d'envoyer un jour. Et il ne s'agissait ni de Moïse, ni du prophète Élie, ni du roi David, mais il s'agit de celui qui est connu dans l'Ancien Testament sous le terme de Messie, et qui se révèle être, avec le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ. Un libérateur qui, d'après la promesse de Dieu, devait venir à un moment donné dans l'histoire du peuple pour délivrer, une fois pour toutes, le peuple. Alors, pourquoi je mentionne ça? Parce qu'en parlant de lui-même, dans ce texte, Moïse est aussi en train de parler indirectement de Jésus, le libérateur. Jésus le Messie, le libérateur par excellence. Et on va y revenir dans un petit moment à cet aspect des choses. Mais à nous aussi, donc, hommes et femmes du 21e siècle, Moïse nous fait comprendre que Dieu est capable de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour susciter un libérateur qui soit à même de nous sauver. Nous non plus, on n'est pas capable de nous en sortir tout seul. Mais Dieu est capable de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour susciter un sauveur capable de nous sauver. Mais poursuivons l'étude de ce texte pour mieux comprendre le genre de héros qu'il nous faut pour que nous soyons sauvés. Et la deuxième chose que Moïse fait comprendre au peuple, cette fois dans les versets 11 à 15, vous avez les plans à l'intérieur du bulletin, c'est que le libérateur est venu chez les siens. Il est venu auprès de ceux qu'il était censé sauver, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Les Hébreux ont rejeté Moïse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand on arrive au verset 10 de ce passage, on a de grandes attentes en ce qui concerne ce bonhomme, dont la naissance nous a été rapportée et toutes les circonstances extraordinaires qui entouraient cette naissance. Et puis les versets 11 et 12 renforcent cette attente. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est que Moïse, qui a le privilège de vivre à la cour du roi, d'accord, entouré de richesses, de plaisirs, il peut faire ce qu'il veut, il est puissant en parole et en œuvre. Quel privilège! Moïse, au verset 11, prend parti pour ses frères les Hébreux plutôt que pour sa famille adoptive, les Égyptiens. Il choisit, voyez-vous, d'être dans le camp des esclaves plutôt que dans le camp des maîtres. Moïse, au verset 12, va prendre la défense d'un Hébreu qui est maltraité par un Égyptien. Et par conséquent, on ne sait pas si c'était intentionnel ou pas, mais en tout cas, il frappe l'Égyptien et l'Égyptien meurt. C'est pas de bol, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et il l'enterre dans le sable. Moïse a pris parti pour les esclaves plutôt que pour les maîtres. Il s'est identifié avec son peuple, les Hébreux, qui étaient maltraités, plutôt qu'avec ceux qui les maltraitaient. Et il n'y a rien dans le texte qui indique que Moïse a mal agi en frappant cet Égyptien, ou que c'était une espèce de bavure de sa part. Oh, flux de main, je me suis laissé emporter, je l'ai tapé, je l'ai frappé, et il est mort, ma mince, alors maintenant je vais le cacher dans le sable pour essayer de dissimuler tout ça. Non, au contraire, vous savez ce que le Nouveau Testament nous dit à ce sujet? Le Nouveau Testament nous explique qu'en agissant ainsi, Moïse, je cite, « pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main ». Moïse pensait que ses frères comprendraient qu'il était le libérateur, venu les délivrer de la servitude d'Égypte. C'est ça que nous explique le Nouveau Testament. Moïse, en quelque sorte, fait son coming out. Il se révèle comme étant ce libérateur attendu et dont le peuple avait tellement besoin. Mais quel flop lorsque dès le lendemain, on lui rétorque, et c'est un hébreu qui lui dit, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Quelle gifle, hein ? C'est un coup de théâtre dans le récit. Et c'est un coup de théâtre qui nous révèle quelque chose de très important. C'est que non seulement le peuple est en proie à la servitude de l'Égypte, mais le peuple est aussi en proie à sa propre incrédulité. En d'autres termes, le peuple a non seulement besoin d'être sauvé de l'oppresseur, mais il a aussi besoin d'être sauvé de lui-même. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Brian Welch. C'était l'ancien guitariste d'un groupe de heavy metal qui existe encore et qui s'appelle Korn. Vous avez entendu parler de Korn, groupe de heavy metal. Eh bien, Brian Welch, c'est l'ancien guitariste, il a joué avec Korn pendant 12 ans, c'était un des membres fondateurs du groupe. Et pendant ces 12 ans où il a joué avec ce groupe, il s'est enfoncé petit à petit dans une vie caractérisée par l'alcoolisme, la débauche, la violence et la drogue. Et Brian Welch est notamment devenu profondément dépendant d'une drogue appelée la méthamphétamine. Mais en 2005, figurez-vous que son agent a communiqué avec les médias et il leur a annoncé que Brian Welch avait décidé de quitter le groupe Korn. Et voici l'explication, je cite. Brian Welch a choisi le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et il a décidé d'orienter ses futurs projets musicaux en conséquence. Pas mal ça, hein ? Et ensuite, Brian Welch va enregistrer un album solo dont le titre témoigne de l'expérience qu'il a faite de sa conversion à Jésus. Et le titre de cet album, c'était en anglais « Save me from myself ». Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi de moi-même, le titre de son album. Et puis, figurez-vous qu'il a aussi écrit un livre qui est sorti en français, en 2010, intitulé ainsi « Sauve-moi de moi-même. Comment j'ai rencontré Dieu, quitté Korn, abandonné la drogue et suis encore en vie pour en témoigner. » Et j'ai feuilleté ce livre. Et mis à part quelques libertés, on va dire, théologiques ici ou là, bon, c'est pas très grave, mais son témoignage est extraordinaire. Extraordinaire. Mais si je vous raconte cela, c'est parce que Brian Welch s'est rendu compte qu'il avait besoin non seulement d'être sauvé de la drogue et de l'alcool et de l'engrenage infernal auquel il était asservi avant de devenir chrétien, non seulement il avait besoin d'être sauvé de tout ça, mais il avait aussi et peut-être surtout besoin d'être sauvé de lui-même, c'est-à-dire de ses propres penchants, les penchants de son propre cœur, d'accord ? Il avait besoin d'être sauvé de sa propre incrédulité, de son propre amour pour le mal, vous voyez ? Et Dieu veut que nous, aujourd'hui, nous nous rendions compte que nous sommes tous dans une situation similaire à celle-là. Nous sommes en proie à notre propre incrédulité. Et au fond, si nous sommes têtus et sceptiques, que nous soyons croyants ou non, si nous sommes têtus et sceptiques, nous sommes têtus et sceptiques et c'est parce que nous ne voulons pas au fond qu'on nous sauve. Nous ne voulons pas au fond être sauvés. Nous sommes en proie à notre propre incrédulité, au penchant de notre propre cœur et à notre propre amour pour le mal. La vérité, c'est que si cela ne dépendait que de notre propre intelligence et de nos propres désirs, nous ne voudrions pas plus d'un libérateur que l'ont voulu les Hébreux dans ce texte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qu'il nous faut, c'est un sauveur qui nous sauve malgré nous. Il nous faut un sauveur qui nous sauve malgré nous, même lorsque le libérateur par excellence est venu, le Messie Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous savez ce qui est arrivé ? La Bible raconte que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le peuple rejette son héros. Alors quel espoir y a-t-il si le peuple lui-même rejette son héros, son libérateur ? Eh bien, regardons la fin du texte. Alors premièrement, Moïse a fait comprendre au peuple que Dieu a envoyé un héros et que ce héros, ce n'est pas n'importe qui. Deuxièmement, il a fait comprendre au peuple que ce héros s'est manifesté au peuple, mais que le peuple, lui, l'a rejeté. Et troisièmement, et c'est là qu'est la bonne nouvelle, c'est là qu'est l'extraordinaire bonne nouvelle, Moïse fait comprendre au peuple que le libérateur va rester malgré tout fidèle à sa vocation, ou à sa mission, si vous préférez. Alors, quand on lit le verset 15, on a peut-être l'impression que Moïse fait preuve de lâcheté en fuyant loin du Pharaon qui veut le tuer. Voilà ce qui est dit, hein. Le Pharaon a appris ce qui s'était passé, il cherchait à tuer Moïse, mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Alors, on a peut-être l'impression que Moïse fait preuve de lâcheté. Il s'enfuit loin du Pharaon. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas ce que le texte veut nous faire comprendre. La fuite de Moïse, en fait, est une démarche fidèle et courageuse. C'est un acte de résistance. Un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on parlait de prendre le maquis. C'est-à-dire, on allait se cacher dans des régions qui étaient peu peuplées, comme des forêts ou des montagnes, d'accord? Donc Moïse n'est pas en train de s'enfuir comme un lâche, mais il va chercher refuge dans un endroit où le pharaon ne va pas le chercher. Il est en train de prendre le maquis, en fait, pour faire de la résistance. Moïse va se réfugier dans un pays qui s'appelle le pays de Madian, qui est en fait de l'autre côté du désert du Sinaï. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le texte? C'est que ses qualités de libérateur, au lieu d'avoir disparu, elles vont se manifester très rapidement, puisqu'il va prendre la défense des femmes de Réuel ou Jéthro, hein, il a deux noms, Réuel ou Jéthro, de ses filles, il va les défendre près du puits contre les bergers. Donc le libérateur est toujours là. Et par la providence de Dieu, cette intervention qu'il va faire va permettre à Moïse de trouver une maison où habiter, un travail où exercer pendant 40 ans, mais ça on ne le sait pas encore, et il va y trouver aussi une femme, Séphora. Tout l'épisode se termine, verset 22, avec la naissance du premier enfant de Moïse, qu'il appelle Gershom. Et le texte nous explique pourquoi il choisit ce nom. C'est parce que Gershom, ça signifie immigrant ou résident temporaire. Pourquoi est-ce qu'il nomme son fils premier-né Gershom? Parce qu'il veut que son fils soit un rappel perpétuel, sous ses yeux, du fait que Moïse n'est qu'un résident temporaire dans le pays de Madian. Le texte nous fait comprendre que Moïse n'est pas là pour y prendre sa retraite. Hein. Il n'est pas là comme un réfugié politique qui ne compte jamais retourner dans son pays. Il est là, chez cet homme, Jéthro, il y est temporairement. Il n'a pas abandonné son identité ni sa mission en tant que libérateur du peuple. Ce que Moïse nous fait comprendre ici, c'est que Dieu a suscité un libérateur dont la foi et la fidélité l'emportent sur l'incrédulité du peuple. C'est un libérateur dont la foi et la fidélité l'emportent sur l'incrédulité du peuple. L'incrédulité des Hébreux n'a pas fait reculer Dieu. Leur incrédulité n'a pas fait reculer le héros que Dieu a suscité et que pourtant ils ont rejeté. Imaginez que vous soyez un passager du Costa Concordia, le navire qui s'est échoué, hein, près de l'Italie. Imaginez que vous soyez un passager du Costa Concordia en cette triste nuit du 13 janvier. Le navire a heurté un énorme rocher et il est en train de couler. Et vous êtes coincé dans votre cabine qui commence à se remplir d'eau et dont la porte est coincée par des meubles qui sont tombés quand le bateau a heurté le rocher. Et il fait tout noir puisque bien sûr il n'y a pas d'électricité. Tout à coup, vous entendez la porte voler en éclats et vous entendez la voix d'un homme qui vous dit « Venez, venez vite, venez vers moi !» Mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne savez pas nager et vous n'avez pas de gilet de sauvetage. Vous avez peur parce que l'obscurité est tellement impénétrable. La situation vous semble désespérée. Vous allez mourir, pensez-vous. Et puis cette voix « Venez, venez, vous ne craignez rien !» Mais vous ne bougez pas. Vous entendez alors l'homme s'éloigner, mais vous ne lui en voulez pas. Un quart d'heure s'écoule, une demi-heure, et l'eau continue de monter. Et vous vous préparez à mourir, vous savez que la fin est proche, l'eau atteint vos épaules, et vous vous apprêtez à fermer les yeux et à vous laisser aller. Lorsque tout d'un coup une lumière s'allume, et vous entendez la voix de nouveau. « Venez, je suis allé chercher une lampe et un gilet de sauvetage à l'extérieur. Venez !» Venez vers moi, ne craignez rien. Et de même dans ce texte, vous voyez, Moïse nous présente un genre de sauveteur, dont la détermination l'emporte sur l'incrédulité des gens qu'il est venu sauver. Et bien sûr, c'est la suite du récit, les chapitres 3 et les suivants, qui vont nous raconter précisément comment ce libérateur a accompli la délivrance du peuple. Mais pour l'heure, nous voyons un libérateur qui n'a pas perdu la foi, quand bien même le peuple, lui, l'a perdu, la foi. On peut même dire qu'en fuyant l'Égypte à travers le désert du Sinaï, Moïse a connu un genre d'exode avant l'heure. On ne sait pas quel chemin il a pris, mais c'était un chemin qui n'était probablement pas très éloigné du chemin qu'ont pris les Israélites plus tard. Comme un éclaireur, Moïse a ouvert le chemin du salut, mais pas pour se sauver lui-même. Il est allé là-bas dans le pays de Madian pour sauver le peuple, malgré le peuple. Moïse, lui, il était peut-être le seul parmi les Hébreux à s'être réellement appuyé sur les promesses de Dieu. Et sa foi, la foi de Moïse, l'a emporté sur l'incrédulité du peuple. Donc, pour terminer, si je peux récapituler rapidement ce que Moïse est en train de faire comprendre au peuple d'Israël, dans ce texte, c'est que, premièrement, Dieu n'a pas envoyé n'importe qui pour le sauver. C'est notre premier point. Deuxièmement, le peuple avait besoin d'être sauvé de ses oppresseurs, oui, mais aussi il avait besoin d'être sauvé de lui-même. C'est un deuxième point. Troisièmement, que l'incrédulité du peuple ne peut pas faire échouer Dieu. Vous voyez donc que Moïse montre au peuple le genre de libérateur dont il a besoin. Mais il lui montre aussi le genre de libération dont il a besoin. Et bien sûr, au moment où Moïse écrit ces lignes, au moment où il écrit le livre de l'Exode, comme d'ailleurs les autres livres parmi les cinq premiers de la Bible, eh bien, l'Exode a déjà eu lieu. Les gens sont au courant de ce qui s'est passé après. Dieu a délivré son peuple, malgré lui. Et pourtant, Dieu l'a fait, et pourtant on le découvre ensuite, tout au long des pages de l'Exode, mais aussi de ces autres livres que Moïse a écrits, on découvre quoi ? Que le peuple continue d'être incrédule. Dieu a libéré le peuple, malgré le peuple, et le peuple continue d'être incrédule. Le peuple de Dieu continue d'être enclin à se détourner de Dieu. Nous sommes donc placés dans l'attente, mes amis, d'un libérateur encore meilleur que Moïse. Et comme je le disais tout à l'heure, le libérateur par excellence, le libérateur ultime, c'est Jésus-Christ. Il n'en viendra jamais un meilleur, parce que Jésus est le Fils éternel de Dieu, qui est venu dans l'histoire parmi les hommes. Comme Moïse, il est né dans des circonstances extraordinaires et providentielles. Comme Moïse, Jésus a choisi d'être fidèle à Dieu, il a choisi d'être humilié, de prendre, nous dit le Nouveau Testament, de prendre la condition d'esclave en devenant semblable aux hommes, plutôt que de rester au chaud dans la gloire du ciel, si j'ose dire. Comme Moïse, Jésus a été rejeté par le peuple de Dieu. Il a même été abandonné par ses propres disciples. Mais comme Moïse, Jésus est resté fidèle. Il est resté obéissant, même jusqu'à la mort de la croix, de sorte que la foi et l'obéissance de Jésus l'ont emporté sur l'incrédulité des gens qu'il est venu sauver. Sa foi et son obéissance l'ont emporté sur l'incrédulité des gens qu'il est venu sauver. Jésus, en effet, est ressuscité. Il est devenu, nous dit la Bible, les prémices de la résurrection, comme le premier ressuscité, celui qui ouvre le chemin du salut, comme Moïse a ouvert le chemin de l'Exode. Comme un éclaireur, lui aussi, a ouvert le chemin du salut, et il l'a fait de façon excellente et ultime. Bref, pour le dire tout simplement, Jésus a été le genre de sauveur dont nous avons besoin. Un héros est apparu, Jésus-Christ. Il a été rejeté, mais il est resté fidèle. Voilà un libérateur dont la foi et la fidélité suppléent à notre incrédulité. Voilà un sauveur, mes amis. Un sauveur qui nous sauve malgré nous. Alors, est-ce que vous êtes trop difficile à sauver ? Est-ce que vous êtes un non-croyant qui pensait être trop cartésien, trop matérialiste, trop sceptique, trop têtu, bref, trop non-croyant, pour que Dieu puisse faire quelque chose pour vous ? Ou bien est-ce que vous êtes un croyant qui vous sentez loin de Dieu, si coupable et si dépité que vous ne pouvez pas imaginer comment l'amour de Dieu pourrait l'emporter sur votre incrédulité ou sur les désirs de votre chair. Quel que soit votre cas, j'espère que vous avez pris la mesure cet après-midi des moyens que Dieu a mis en œuvre pour sauver les hommes. Il a envoyé un sauveur capable de vous sauver malgré vous. Et ce libérateur, c'est Dieu en personne. Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Dieu le Fils, fait homme. Voici pour finir quelques paroles tirées d'un cantique bien connu. Seuls, nous bronchons à chaque pas. Notre force est faiblesse. Mais un héros dans les combats, pour nous, lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur. Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Amen.